France Info.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Élodie.
Vous êtes ce conteur né, d'abord découvert en tant qu'acteur, ado, notamment dans Le ciel, les oiseaux et ta mère de Jamel Ben Salah, ou encore Les Ripoux 3 et 3-0, avant de vous fondre dans un registre dramatique très incarné au théâtre notamment. Ce qui vous anime, vous fait vibrer depuis votre plus tendre enfance et presque en secret reste l'histoire. Vous avez d'ailleurs beaucoup surpris quand vous avez publié Métronome, l'histoire de France au rythme du métro parisien. C'était en 2009, ça passe très très vite. Il y a eu Hexagone également en 2013. Et même si certaines critiques émanant d'historiens sont acerbes, force est de constater que vous avez donné envie à beaucoup de lecteurs ou spectateurs d'émissions dans lesquelles vous apparaissez, à s'intéresser à certains pans de notre belle histoire de France ou même au métro parisien. Aujourd'hui, vous publiez Métronome illustré avec la complicité d'Emmanuel Sokol et Emmanuel Eman et les illustrations de Mathieu Persan, mais aussi à toute Berzingue, tome 3. Les deux chez Michel Lafon. Les deux nous prennent par la main. Je crois que c'est votre force, Laurent Deutsch, nous emmener avec vous et nous transmettre ce que vous avez envie de nous transmettre.
Ouais, parce que j'aime à dire que j'écris les livres avec mes pieds, moi. C'est-à-dire que c'est à partir de mes... Oui, il faut la tenir, cette citation, parce qu'elle peut se retourner contre vous, elle peut revenir comme un boomerang. Non mais c'est vrai, j'écris à partir de mes observations. Je me balade dans la rue et tout d'un coup il y a un monument, il y a un nom de rue, il y a un immeuble qui m'interpelle, qui me surprend et évidemment il a une histoire puisque tout est histoire et en remontant le fil de l'histoire, je pars à la rencontre de nos ancêtres à tous, quoi, de nos aïeux qui ont fait ce jardin merveilleux qui est la France ou même ailleurs quand j'ai la chance de m'expatrier plus loin, mais la majeure partie de mon temps je suis en France, donc je vis des histoires grâce justement et d'abord à partir de ma curiosité et de mes observations. À partir de la surface. J'écris d'abord à partir de la surface, contrairement aux historiens qui, bien souvent, eux, creusent, partent chercher dans les musées, dans les archives, dans les livres, dans les textes. Ils font déjà une démarche, ils vont déjà à la conquête de... Moi, je la reçois par effraction, elle me tombe dessus. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien, c'est que ce qui m'est tombé dessus, ça tombe aussi sur tout le monde, puisque c'est notre quotidien, c'est tout simplement notre réalité.
Dès le départ, il y a effectivement les érudits, ceux qui ne sont jamais vraiment pour qu'on puisse vulgariser, entre guillemets, ou transmettre des choses qui vous sont tombées un peu dessus. Vous êtes rendu compte à ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant, que l'histoire était un champ de bataille.
Exactement,
que
ça,
chacun choisissait son
côté. Ouais, pour reprendre l'expression de, je crois que c'est Bourdieu, et on l'entend beaucoup chez certains historiens, l'histoire est un combat, quoi. Et pas moi. Moi, l'histoire est un divertissement. Et alors, je suis peut-être le ravi de la crèche, je suis peut-être naïf, mais moi, l'histoire doit non seulement être rassembleuse, mais avant tout, elle doit être la garante et porteuse à la fois d'un beau message, mais surtout de quelque chose qui va nous enrichir. Ça va nous renforcer. Ça va renforcer notre quotidien. Ça va renforcer l'ordinaire, quoi. Ça va nous permettre de vivre dans une réalité augmentée. C'est mon privilège, c'est peut-être un peu ma naïveté. Il y en a qui ça plaît pas trop, parce que c'est vrai, et je l'ai découvert. Je suis un peu tombé de mon nuage quand je me suis rendu compte que certains aspects de l'histoire, certains faits historiques sont des marqueurs qui appartiennent à certaines chapelles et qui sont justement des espèces de témoins où quand vous en parlez pas ou vous en parlez peu ou vous en parlez trop, ça veut dire quelque chose et ensuite on va vous amener vers de l'idéologie ou vers une orientation. Moi, et je le répète à chaque fois, j'ai pas d'orientation. Ma seule ambition, c'est grâce à l'histoire de passer une belle journée et de comprendre deux fois plus cette réalité qui est la mienne, mon présent. Voilà. L'histoire, c'est pas genre c'était mieux avant. Ceux qui aiment l'histoire, c'est pas pour le repli ou pour le voyage en arrière. Non, ceux qui aiment l'histoire comme moi, c'est justement parce qu'ils aiment leur réalité et grâce à l'histoire, ils la savourent deux fois plus.
À quel moment l'histoire vous a pris par la main alors, Laurent ?
Avec Eddie Mitchell. Quand j'avais 12 ans, je regardais la dernière séance le mardi soir à la télé et c'était donc ces grandes épopées hollywoodiennes un peu romancées, hein, bien sûr. On voyait les 10 commandements, on voyait Ivanhoé, les Vikings avec Kirk Douglas, les westerns aussi. Et c'était de superbes histoires et surtout de très beaux scénarios à revivre le lendemain avec mes soldats de plomb, mes petits jouets, etc. Et un jour, ma maman m'a dit, mais attends pas le mardi pour t'inventer de nouvelles histoires, de nouvelles péripéties pour tes jouets et puis pour tes jeux d'enfants, mets-toi dans les livres d'histoire. Donc elle m'a offert un livre d'Alain Decaux et d'Alain Decaux je suis passé à Victor Hugo, je suis passé à Eugène Sue pour découvrir Paris et Balzac, donc ça a été d'abord par la littérature et ensuite les historiens pour renforcer le propos, quoi, pour me spécialiser davantage.
Est-ce que justement ce travail que vous effectuez depuis des années n'a pas été finalement pour vous l'occasion de rendre hommage aussi à cette famille qui vous a toujours porté, aidé et qui elle-même a connu énormément de territoires?
Ouais, c'est possible. C'est vrai que moi, mes parents sont immigrés, mais j'ai jamais eu de manque ou d'épreuves ou de sensation d'être déraciné ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours été très heureux. J'ai grandi dans l'ouest de la France, dans un petit village, ambiance la guerre des boutons. Après, je suis arrivé dans une cité à 15 ans, à Bobigny. Là, ça a été un peu plus brutal et plus rugueux, mais j'ai eu la chance de pouvoir tout de suite travailler. J'ai travaillé à partir de 15 ans. J'ai commencé à faire du cinéma avec une série télé qui s'appelait Les Intrépides. J'ai voyagé, je suis parti pendant un an au Québec, donc j'ai toujours été porté, appuyé, j'ai jamais eu de ressentiment, j'ai eu cette chance-là d'avoir des portes qui s'ouvraient très facilement et de rencontrer plutôt des mains tendues que des poings fermés.
Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que dans les deux ouvrages que vous nous proposez, vous sillonnez à la fois d'un côté la France, toutes les villes, vous rendez entre guillemets à César ce qui lui appartient, et je voudrais qu'on parle de ça, parce que Métronome illustré arrive quand même 15 ans après le premier tome. Jamais, j'imagine, que vous n'auriez pu imaginer que le destin de cet ouvrage et à quel point il deviendrait un ouvrage aussi important.
Il a clairement changé ma vie.
Voilà, qu'est-ce qui a changé dans ces
J'étais
ces 15
acteur,
ans
on me proposait des scénarios pour jouer dedans, et après on m'a proposé des scénarios pour les lire. J'ai un souvenir de Jean Dujardin qui préparait un film à l'époque sur Jean Cavalier, qui était un camisard dans les Cévennes. Il m'a dit, ah, je prépare un film là-dessus, j'aimerais bien que tu lises le scénario. Et je lui dis, oui, alors, y a un rôle pour moi. Je me sentais encore un peu acteur à l'époque. Il me dit, non, c'est pas pour jouer dedans, c'est pour me dire ce que t'en penses. Et là, tout d'un coup, je lui dis, ah mince, le regard des gens est en train de changer. Et moi-même, en plus, mon activité était à cause ou grâce à Métronome, elle s'est transformée. Je suis passé à autre chose. Je le regrette pas du tout. Parce que du coup, en plus, c'est vrai, avec À toute berzingue, ma passion pour la réalité et ce qui m'entoure, et ben, je la développe aux six coins de l'Hexagone. Et à chaque fois, je pars dans des terres inconnues, je me prends pour un marin, je me sens comme Ulysse. Quoi. Ça fait 7 ans que j'ai commencé cette aventure à toute berzingue, celle de raconter l'histoire de France en courant, à la manière de Métronome. Et je suis pas lassé, parce qu'à chaque fois, c'est des territoires nouveaux, c'est des visages nouveaux, c'est des musées, c'est des gens, c'est des blogueurs, c'est des gens qui tiennent des gazettes, qui ont des blogs sur Internet. C'est aussi beaucoup de pierres, des monuments, des choses que j'avais jamais vues et que je découvre. Il y a des mystères incroyables. La France est truffée de richesses. Comme je le dis, c'est un jardin incroyable avec plein de fleurs, et je passe les sentir, je butine de fleur en fleur depuis 7 ans, et c'est un voyage très coloré et pour moi essentiel. Et je me sens utile aussi grâce à ça, plus que par mon métier d'acteur.
C'est un peu l'Odyssée d'Ulysse.
C'est l'Odyssée d'Ulysse. Voilà, on est dans cette civilisation un peu gréco-latine, parce que c'est vrai que Rome, l'Italie est toujours présente. On est toujours, comme je le dis, on n'est pas des Gaulois, on est des Romains. Notre papa à tous, je sais pas si Élodie, vous aimez le parc Astérix, la BD, vous aimez Astérix et Obélix, comme tout le monde, faut retourner la BD, faut tout recommencer. Hein. Notre ancêtre, c'est pas le petit marrant avec des plumes, mais notre ancêtre, c'est le gros balèze en cuirasse, parce qu'on parle leur langue. Astérix, il aurait été dans le studio, là, il nous aurait déjà pété la gueule. Hein. Il aurait compris que la langue que je parle et celle que vous comprenez, c'est pas la sienne. C'est celle de Jules César, du gros balèze en cuirasse. Donc voilà, on est des Romains. On est des Romains, on est des Latins. Et c'est ce que je redécouvre, ce plaisir immense que j'ai à sillonner la France à la recherche de notre antiquité, de nos racines, pour mieux absorber et comprendre et espérer dans mon présent.
On vit dans un monde où tout est numérisé, où évidemment ce rapport au papier, au réel, à la vie n'existe quasiment plus. Avec cet ouvrage et son parcours depuis 15 ans finalement, et peu importe les ouvrages que vous avez sortis en plus en parallèle, il y a ce rapport à l'encyclopédie qu'on avait d'antan. Est-ce que ça vous touche ça justement, qu'on ait besoin d'aller toucher le papier, d'aller regarder les images? Là en plus il est illustré, donc ça nous attrape davantage, ça rend encore plus ludique la démarche.
C'est vrai qu'un livre, c'est quelque chose de très intime, puisque c'est le trait d'union entre un auteur et son lecteur. Tout d'un coup, le livre va s'approprier, va se revêtir de votre propre expérience, de votre propre voyage. Un livre peut être lu à la campagne, sur une plage, il peut choper du sable, il peut choper des petites traces de terre, il peut choper des odeurs, des saveurs d'un restaurant où on l'a lu, et on peut les corner, on peut souligner. Tout d'un coup, il prend les stigmates de votre propre expérience avec ce livre. Donc c'est vrai que par rapport au numérique, où tout est maintenant immatériel, dématérialisé, eh bien, il y a aussi un éloignement avec l'auteur. Il y a aussi un éloignement avec le géniteur ou à celui qui vous a proposé l'émotion. Moi, par exemple, avec l'histoire, mon voyage à toute berzingue comme Métronome, ça a surtout pour but d'inviter les gens à sortir de chez eux pour aller à la rencontre de cette histoire, justement, d'aller les toucher, ces pierres qui sont nos mères, qui sont la mémoire de nos pères. Aller les toucher, elles sont encore là, in situ, sur place, elles sont pas perdues dans les musées, elles sont pas derrière des glaces vitrées qu'on peut plus approcher, elles sont pas dans des trucs inaccessibles, réservés à une clientèle de chercheurs, de mandarins qui, eux, avec des gants blancs, ont le droit de toucher le livre et pas nous. Non, là, moi, ce que j'essaie de défendre, c'est une histoire accessible à tous et avec laquelle vous avez rendez-vous. Sortez de chez vous, elle est là, elle est devant vous, parce que tout est histoire, que ce soit votre trajet le plus anodin ou votre voyage plein d'espoir.
Le premier volume était donc un passage secret que vous souhaitiez partager avec les lecteurs. C'est comme ça d'ailleurs que vous entamez Métronome illustré, c'est comme ça que vous nous le racontez. C'est effectivement devenu un peu le chaînon manquant entre presque l'école et aujourd'hui. C'est ça la force aussi de tout ça. Et quand on découvre que quasiment sous chaque pavé, Paris possède une histoire, et ça nous renvoie au fait que l'histoire appartient à tout le monde. Ce qui est assez heurtant, c'est qu'on se rend compte qu'on prend pas assez le temps, en tout cas, d'aller davantage aller la déguster, cette histoire.
Mon meilleur ami est parisien, il est jamais monté sur la Tour Eiffel. Et c'est vrai que des fois, je vais dans des villes, et il y a des gens qui me disent « Ah bah, qu'est-ce que vous faites là ?» Par exemple, là, j'étais à Sens, dans l'Yonne, je faisais un atout de berzingue, et beaucoup beaucoup de gens me disaient, mais qu'est-ce que vous allez filmer ici? Il y a quoi? Vous inquiétez pas. Regardez-vous dans mes yeux et vous verrez comme vous êtes beau. Parce que c'est vrai que moi, toutes les destinations où je vais ne sont pas des accidents. Elles m'ont pas été imposées. Je les ai désirées. C'est ma quête. C'est mon but. C'est mon trésor. Aller à la rencontre, donc, des territoires de la République, les territoires de l'Hexagone, de la France, pour raconter et pour témoigner de leur histoire. C'est un choix. C'est presque un voyage de noces entre moi et notre chère France.
Il y a une quête, hein, chez vous, hein, qui est lancée. À toute berzingue, d'ailleurs, est un peu en dualité avec l'importance de s'arrêter, de prendre le temps. C'est ça qui est étonnant chez vous, Laurent Deutsch.
Disons qu'à toute berzingue, je l'avais créé pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été sur les réseaux sociaux.
C'est une chaîne YouTube.
Ouais, c'est l'adaptation, enfin, c'est la mise en livre, en album de ma chaîne YouTube que j'ai créée à l'occasion du début de ce voyage, donc il y a 7 ans maintenant. Et comme il faut aller vite sur les réseaux sociaux, c'est le tout tout de suite, c'est le numérique, c'est frénétique, quoi. Tout se contracte, tout se comprime, jusque dans les mots. Les mots, quand vous parlez aujourd'hui, ça devient des sons, c'est des tempos. C'est vrai, Elodie, autrefois, bonjour, comme on disait bonjour, comment ça va? On disait bonjour, comment ça va? Maintenant, c'est wesh. Quand on disait bonjour à quelqu'un, on se présentait par ses qualifications, par ses qualités. On disait bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour papa, bonjour maman. Maintenant, c'est frère. On dit frère. Ça va, frère? Moi, j'ai 3 enfants, mes filles m'appellent frère. Non, mais ça, tout va vite. Tout va vite. Alors, c'est pas que ça s'appauvrit d'un côté, mais d'un côté, ça se renforce aussi avec de la musique, avec de la tonalité, avec de l'accent. Et donc, tout est rapide. Et je veux montrer non pas que l'histoire peut se raconter de manière échevelée et rapide, mais qu'elle est facile. Elle est facile. Ça peut être simple. Ça peut être simple. Ça va pas vous prendre une carrière d'universitaire, parce que je rends grâce aux historiens qui prennent des fois 40 ans de leur vie pour vous dire si telle ou telle pierre effectivement a appartenu à la muraille Philippe Auguste du XIIIe siècle à Paris. C'est essentiel. Ça, c'est de la science pure et dure. Mais on n'a pas tous le temps, en tout cas la passion, de s'arrêter pendant 40 ans sur un bout de caillou pour savoir s'il date effectivement de Philippe Auguste ou pas. Alors, c'est vraiment des travaux de, là encore, c'est un travail de Romain. Et moi, j'ai le privilège de pouvoir me servir d'eux pour en parler en 30 secondes. Je suis comme un petit nain qui s'appuie sur leur épaule de géant. Voilà, ils ont pris le temps et je témoigne et je continue. C'est aussi un peu mon privilège.
Dans ce métronome illustré, vous démarrez par l'île de la Cité, donc le berceau de César. Pendant longtemps, on a cherché l'oppidum. Pendant longtemps, on a cherché, ça renvoie au fait que pendant longtemps, on a cherché, encore aujourd'hui, on cherche un certain nombre de choses. Et à chaque fois, ce qu'on découvre, c'est qu'on va chercher et on finit par trouver dans des travaux qui ne sont pas du tout destinés à ça. Là, en l'occurrence, l'oppidum, on l'a découvert. Enfin, on a découvert.
Dans les travaux de la 86.
De la 86. Ouais. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de petite histoire.
Ah non, il n'y a pas de petite histoire, et puis tout participe d'un grand mouvement, d'un grand voyage, qui est donc la grande histoire. Et c'est vrai que l'oppidum des Parisis, on ne l'a pas trouvé, mais de toute façon, le terme d'oppida, c'est-à-dire de ville à la gauloise, et là encore, ça prouve à quel point on n'est pas gaulois, mais romain, il n'était pas du tout comme on l'entend aujourd'hui. Les Gaulois, c'était plus un camp retranché, et on pouvait le quitter quand on n'avait plus de problème. Ils n'étaient pas nomades, les Gaulois, mais ils bougeaient. Par exemple, l'oppidum principal des Parisis pouvait être du côté d'Ivry, de Nanterre, mais aussi de Bobigny. Il était près des cours d'eau, appuyés ou un peu en hauteur. Généralement, les Gaulois préféraient se mettre sur des hauteurs et les Romains, eux, vont s'installer sur la plaine. En plus, c'est l'Empire, ils ont conquis tout le monde, ils n'ont pas de danger immédiat. Donc, ils vont installer Paris véritablement à Paris. Le Paris qu'on connaît, on ne le doit pas aux Gaulois, on le doit pas non plus à Jules César, mais en tout cas à ses successeurs, à Auguste et surtout à l'empereur Tibère, qui va vraiment créer cette ville orthonormée, d'abord essentiellement située sur la rive gauche, puis plus tard sur la rive droite, avec les Francs qui, à leur tour, vont marquer le territoire de leur empreinte.
Il y a beaucoup de destruction dans tous ces bâtiments.
Bah oui, mais c'était nécessaire, vous savez.
Ils détruisaient pour reconstruire ailleurs, c'est assez fou d'ailleurs.
C'est là
où ça devient fascinant.
Bah ouais, mais j'ai une révélation à vous faire, c'est que Stéphane Bern n'a pas toujours été là. Donc il y a un moment où on défendait et on ne protégeait pas le patrimoine. Avant le 19e siècle, quand les choses sont en mauvais état, abîmées, obsolètes, qu'il faut construire plus grand, plus neuf, plus moderne, en tout cas voilà, plus adapté à l'usage et à la pratique, on démolissait sans rancœur, sans mémoire, sans nostalgie. Alors, on vénérait déjà évidemment surtout les lieux religieux, les autels, parce que le christianisme s'est construit justement sur la vénération des reliques et donc sur la sanctuarisation de choses à protéger comme des lieux sacrés. Les Gaulois le faisaient déjà avec des arbres, des sources ou des choses comme ça. Mais l'histoire de France, avant le 19e siècle et avant Victor Hugo, hein, avant les romantiques, ne s'intéressait pas vraiment aux pierres du passé. Même le baron Haussmann, quand il a tout modifié à Paris, bah, il a tout détruit, c'était pas grave. Mais il s'était déjà quand même dit « Ah, protégeons quand même les lieux importants de l'histoire de France, là où il y a eu des événements, l'hôtel de ville, le Louvre, protégeons nos églises, les cathédrales. » Pour le reste, l'architecture civile, elle a morflé parce qu'elle était considérée comme anodine, anonyme, et donc on l'a retransformée pour le bien de la population, pour que les gens vivent avec plus de confort et vivent avec leur temps, en quelque sorte.
Nos souvenirs sont tous rattachés à des anecdotes que vous racontez, parce que à des lieux de vie par lesquels nous passons. Tous les chemins mènent à Rome. Là, ça prend vraiment toute son ampleur. C'est le lien aussi avec vous, j'ai l'impression, Laurent.
C'est vrai. L'idée d'écrire Métronome, donc l'histoire de Paris, mais à travers l'histoire de Paris, évidemment l'histoire de France, à travers le prisme du métro parisien, elle m'est venue Place d'Italie. J'étais persuadé que j'étais dans le Quartier Latin.
C'était un centre névralgique pour se rendre à Rome.
Ah bah bien sûr. Paris était au tout début de notre histoire. Il faut attendre le 4e siècle pour que Paris prenne vraiment une forte importance. À l'époque de Jules César, on va dire que les cités importantes près de Paris, c'est Sens, justement, et Meaux. Oui, Jean-François Copé était plus important qu'Anne Hidalgo à l'époque. Donc c'était Meaux, vraiment, qui était la cité à connecter dans le Nord. Mais Paris va se développer, se ramifier à Rome, parce qu'il faut un chemin pour mener à Rome. Et c'était la route d'Italie. Et cette route d'Italie, c'était notre avenue des Gobelins, qui devient l'avenue d'Italie. Et c'était donc la souche de cette voie romaine. D'où le nom de Place d'Italie. Moi qui croyais arriver au Quartier Latin avec des pizzas, des trucs un peu exotiques, pas du tout. Si vous connaissez la Place d'Italie, c'est un frigidaire. C'est des grands immeubles à la Le Corbusier, bah, bref. Et donc il n'y a rien à voir avec l'Italie. Donc je comprenais pas, on m'avait trompé, quoi. On m'avait trompé sur le nom de la station de métro. Et c'est une petite dame qui m'a expliqué en me disant « Mais non, vous êtes sur la route d'Italie. » À l'époque, des Romains, ils partaient de là pour aller à Rome, pour aller retrouver l'Empire. Et ça m'a passionné. Je me suis dit « Ok, d'accord, les stations de métro, elles ont une histoire, je vais enquêter. » D'ailleurs, le mot « histoire », c'est un mot grec qui veut dire « enquête », on le doit à Hérodote. Donc c'est pourquoi ça me passionne autant. C'est que l'histoire, c'est des enquêtes passionnantes. Et contrairement aux enquêtes un peu plus actuelles par rapport à des crimes ou des choses comme ça, c'est une histoire où il y a plus vraiment de bourreaux, plus vraiment de victimes. Quand il y en a, l'histoire contemporaine, moi je m'en éloigne un peu. Celle qui fait encore souffrir, celle qui nous clive, celle qui nous sépare, je m'en éloigne. Moi, l'histoire que j'aime, c'est celle qui nous rassemble.
Métronome illustré fait travailler nos cinq sens. C'est assez étonnant d'ailleurs. On entend, on voit, on imagine, on touche. On a besoin de tout ça. On imagine effectivement des foules entières. Un Paris où les rues n'étaient pas encore justement sous pavé, où c'était de la terre. On entend presque le fouet des cochers. Enfin, c'est très étonnant. Les bâtiments que vous nous décrivez sont également des personnages à travers la lecture. On a un personnage principal qui est le lion de tous, c'est la Seine. Je voudrais que vous m'en parliez, Laurent Deuge, de cette Seine, parce qu'à la base, c'est une déesse. Enfin, elle était...
Ouais, c'est Quana. Comme souvent d'ailleurs chez les Gaulois, l'eau est sacrée. Eau se dit Ona en gaulois. Donc on la retrouve partout. Icona, Divona, et c'est Quana pour la Seine. Et c'est évidemment cette eau qui est nourricière. Nourricière pour les hommes, nourricière pour les bêtes, nourricière pour les cultures. C'est à partir de cette eau indispensable que les hommes vont fonder d'abord un oppidum, puis un hameau, puis un village, puis une ville. En plus, l'eau permet de circuler. C'est les premiers axes de circulation naturelle, les
avec
fleuves,
les
cours d'eau.
Voilà,
ouais, il y a des barques pour traverser le fleuve, pour le franchir. On peut faire payer des taxes, très utile. Une rivière peut servir de péage. Donc ça, c'est essentiel et structurant dans la construction de toute ville. En plus, la gestion de l'eau, c'est ce qui nous différencie des Gaulois, puisque je maintiens qu'on est d'origine romaine, c'est que l'eau qui servait de choses qu'on allait puiser, ça va être mieux géré par les Romains. La gestion de l'eau, la canalisation de l'eau avec les aqueducs, avec les égouts, avec le système de chauffage, avec les thermes, ça c'est propre aux Romains et c'est vraiment à ça qu'on les reconnaît. La civilisation romaine, d'ailleurs c'était dans les textes, un citoyen romain doit avoir un accès à l'eau chez lui. Il n'y a plus à aller au fleuve pour prendre son seau d'eau comme Cosette, mais on doit avoir l'eau chez soi avec le système d'aqueduc, de canalisation. L'eau doit s'écouler naturellement pour être rejetée. Ça fait partie des principes de la citoyenneté romaine et c'était le cas à Paris puisqu'on avait donc l'eau qui arrivait par la rue Saint-Jacques et qui repartait par le boulevard Saint-Michel.
Je me suis demandé après quoi vous courriez, Laurent, parce que vous êtes toujours par Mons et par Vaux, toujours à droite et à gauche. Vous avez toujours ce besoin et cette soif d'apprendre. Vous avez fait de la philosophie.
Ouais.
Le principe de la philosophie, c'est que plus on apprend, moins on sait. Comment vous vivez ça?
Je suis complètement en accord avec moi. J'ai même une petite équation, je me suis amusé à faire une équation qui est que pour moi, le point d'interrogation est supérieur au point final. C'est le sens de la vie. Point d'interrogation supérieur à point final. Pas de point final, pas de résolution, pas de certitude. Ça s'appelle vieillir, ça s'appelle renoncer, ça s'appelle s'enfermer, ça s'appelle se crisper, ça s'appelle être paresseux. Se poser les questions, rester en éveil, garder ses yeux d'enfant, c'est le sens de la vie. C'est ce qui nous maintient en vie, dynamique, en mouvement, puisque la vie est une onde, elle est un mouvement, elle n'est jamais un point final, elle n'est jamais un point arrêté. C'est cette magnifique ondulation du point d'interrogation, c'est ça le sens de la vie. Et il y a un poète qui nous a quitté récemment, qui s'appelait Christian Bobin, qui a écrit cette phrase magnifique que j'aimerais faire mienne pour mon épitaphe, qui est « Il n'y a pas d'autre raison de vivre que de suivre de tous ses yeux et de toute son enfance cette vie sublime qui nous contemple et qui nous ignore. »
Le but du jeu, c'est de marcher, d'avancer, de découvrir.
De pas s'arrêter. Voilà. De pas s'arrêter. Être vivant, c'est bouger.
Et de continuer à émerveillé devant ce qu'on nous a laissé, qui est juste sublime.
Et il y a de quoi. Charles Quint a dit un jour à François Ier « J'ai traversé un jardin merveilleux. Ce jardin, c'était la France.
À vous de cultiver le vôtre en lisant À toute berzingue, tome 3, aux éditions Michel Lafon et Métronome illustré, toujours chez Michel Lafon. Merci beaucoup.
Oui, édition anniversaire avec une version jeunesse qui sort aussi chez Quelle Histoire. Voilà, pour les plus jeunes. Moi qui n'ai jamais vraiment écrit pour les plus jeunes, j'écrivais pour moi. Eh bien, il y a une version pour la jeunesse qui vient de sortir dans la superbe collection Quelle Histoire chez Hachette.
Merci beaucoup, Laurent Deutsch, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.